Voilà des jours et des jours que je marche. Et je suis fatiguée. Fatiguée. Même de vivre. Et j'ai mal. Pourquoi suis-je venue ici? On m'a parlé de la paix qui sort de cette ville. Alors je suis venue, espérant trouver quelque chose. Je suis une femme du 21e siècle, seule. J'ai perdu ma mémoire. Je n'ai jamais su garder un homme près de moi. Les enfants que j'espérais ne sont jamais nés. Et j'ai peur. Et j'ai mal. J'ai peur du monde. Y a-t-il ici quelqu'un qui entendra mon cri? J'ai tant besoin de paix.
On m'appelle Martial. Je suis prêtre. Je suis le prêtre qui traverse les âges, qui traverse les siècles. Pèlerin aussi. Pèlerin d'hier et d'aujourd'hui, pèlerin de toujours. Pèlerin comme vous tous, ici, ce soir. Pèlerin comme toi, jeune femme fatiguée du 21e siècle. Je voudrais te dire ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu depuis l'aube des temps, sur cette montagne du mont Anis. Je voudrais t'entraîner aux frontières du visible, à travers les âges. Je voudrais te conduire sur cette terre du Velay, parce qu'ici même, quelqu'un est là, qui t'attend, qui saura t'écouter, te sourire, te guérir peut-être. Une femme, ici, au puits, peut te faire partager un peu de son mystère, te révéler son secret, si ton cœur est disposé à écouter. Au commencement, c'est d'un chaos de lave et d'acide qu'a surgi ce pays singulier, suspendu entre montagnes et forêts. 40 millions d'années où s'enchaînent et s'entrechoquent les mouvements du sol. 40 millions d'années où se succèdent périodes chaudes et glaciaires pour modeler le relief de ce bassin du Puy, hérissé de mystérieux pitons volcaniques. Terre meurtrie, terre déchirée, terre souffrante, terre tourmentée, mais terre sacrée aussi. Terre sacrée d'où s'élèvent comme surgit de ces volcans, de ces pitons, les prières de tous ceux qui y vivent depuis plus de 3000 ans. Mystère et miracle du monde. La légende raconte qu'il y a longtemps, très longtemps, le maître de l'enfer avait choisi ce lieu pour y régner en maître. Mais Dieu, auteur de toute création, avait un plan pour cette terre du Velay. Et c'est à sa mère qu'il choisit de la confier, afin qu'elle en fasse son domaine, pour toujours. Vous n'êtes pas obligé de me croire, ni même de m'écouter, mais néanmoins, il était une fois, dans les années 80 après Jésus-Christ. Oui, je sais, c'est loin, c'est très très loin, mais écoutez-moi tout de même. Il était une fois une femme d'un village voisin qui souffrait d'un mal physique intolérable. Les médecins ne pouvaient plus rien pour elle. Elle attendait la mort, elle y aspirait même. Et cette femme s'appelait Villa. Un soir, épuisée par la souffrance, elle s'endormit et un songe la saisit. Une voix lui dit « Lève-toi, marche ». Et monte bien vite sur la montagne. Là-haut, tu auras une vision, et si tu crois, tu guériras. À son réveil, comme soumise à cette volonté, Villa entreprend la montée du rocher. Elle peine, elle chute, mais elle se relève à chaque fois. Et elle continue. Elle progresse vers le sommet de la montagne malgré la fièvre. Elle y parvient enfin. Épuisée par l'effort, elle se laisse tomber sur la pierre d'un dolmen. Et là, elle s'endort, mystérieusement. Dans son sommeil, elle est visitée par une multitude d'anges. Une femme, une reine, coiffée d'un diadème à l'éclat divin, et qui rayonne comme le soleil, lui apparaît soudain. Éblouie par cette vision, elle s'interroge. Qui est-elle ? Un ange lui répond.
N'aie pas peur. Elle est la dame du ciel et de la terre. Elle a choisi ce lieu pour en faire sa demeure. Tous ceux qui viendront la prier ici seront exaucés.
Elle est stupéfaite, Villa. Et elle questionne, elle veut savoir qui est cette dame. Et la dame lui répond en souriant.
Tu crois en Dieu ? Je suis sa mère. Ta foi t'a sauvée. Va trouver de ma part mon serviteur l'évêque et dis-lui que j'ai choisi ce lieu pour recevoir les hommages de tous mes enfants et répondre à leurs vœux.
Et la vision disparaît dans une grande lumière. Et Villa se réveille alors. Elle ne sent plus son mal. Elle est guérie. L'événement était de taille et l'évêque s'empressa d'accourir vers le mont Anis pour voir de ses propres yeux. C'était en juillet. La chaleur était accablante. La montée fut difficile, mais ô surprise, quel ne fut pas l'étonnement du prélat une fois en haut de constater qu'une épaisse couche de neige couvrait le sommet du mont Anis. Et voici tout à coup qu'un cerf apparut, qui d'un pied alerte traça sur cette neige l'enceinte bien dessinée d'une église. L'évêque n'en croyait pas ses yeux. Devant un tel prodige, la Vierge venait confirmer sa présence et son désir aux serviteurs de Dieu. Et l'évêque n'eut aucune peine à croire. Il s'appliqua même à marquer le tracé du cerf par une haie de buissons épineux. Et le lendemain, la haie était couverte de fleurs. Légende, superstition ? Peut-être. En ce temps-là, j'étais en Aquitaine, mais prévenu par l'évêque, je suis venu pour vérifier le miracle. Et vous êtes libre de croire ou de ne pas croire. Je suis venu ce soir vous redire les mystères de cette montagne et de cette cathédrale que la légende tente de percer. Cathédrale où l'on conserve encore au trésor un soulier de la Très Sainte Vierge. Mystère de cette roche jaillit des profondeurs de la terre. Mystère qui fascine. N'est-on pas là-haut, plus près des cieux, plus près du monde invisible, plus près des forces indicibles ? Depuis l'aube des temps, des hommes sont en marche qui, comme vous ce soir, cherchent, croient ou doutent. La cathédrale Notre-Dame de l'Annonciation, Saint-Michel d'Aiguille, Notre-Dame de France, Saint-Joseph d'Espaly, la ville du Puy racontent leur histoire. Il a fallu du temps, beaucoup de temps, pour voir se réaliser le vœu de la Mère de Dieu. Deux siècles ont passé. Et le prodige s'est renouvelé. Il a entraîné l'évêque à lancer la construction d'un sanctuaire. Le pape a été consulté. Il a alors envoyé lui-même un architecte. Et il a demandé à l'évêque d'y installer son siège épiscopal. Et chaque siècle a apporté sa pierre à l'édifice. Et la cathédrale, en l'an 430, a été consacrée par les anges, dit-on. Lorsque vous entendrez parler d'une chambre angélique à propos de cette cathédrale, c'est bien en souvenir de ce jour d'exception. De l'huile sainte, répandue par les anges, émanait une odeur délicate. Elle embaumait de parfums célestes le nouveau sanctuaire, resplendissant de la clarté de milliers de cierges. Or, ce qui est certain, ce qui est étonnant, c'est que les dernières découvertes archéologiques de 2010 attestent la présence d'un sanctuaire au 5e siècle. Alors, pourquoi ne pas croire que l'histoire confirmerait la légende ? Pèlerin du puits, ce qui peut vous aider ce soir, c'est la présence incontestable en ce lieu de Marie. En l'an 1051, s'exclame le pape Léon IX, nulle part ailleurs la Vierge n'est plus honorée qu'au puits. Présence confirmée par tous ceux qui, comme vous, sont venus ici en pèlerinage. Pape, rois, saints, hommes et femmes de tous âges et de toutes conditions, pèlerins d'un jour ou marcheurs de Saint-Jacques de Compostelle, paysannes anonymes ou reines de France, Jeanne la Lorraine, femme de la Révolution, grande sainte ou fille des rues, toutes sont venues au puits demander, confier, supplier, implorer Notre-Dame au cours de l'histoire. La remercier aussi, parfois. Alors, voulez-vous avec eux, avec moi, traverser les siècles ? Nous sommes tout proches de l'an 1000, en 992 exactement. La peur règne sur le royaume de France. C'est l'apogée de la féodalité. Le pouvoir politique est inexistant. Les Capétiens, dans leurs premières années de règne, ne sont que des roitelets. Les guerres n'en finissent plus de se multiplier. Désordre, incertitude, peur. La fin du monde est annoncée cette année-là. Car cette année-là, le Vendredi Saint, le jour de la mort du Christ, tombe le 25 mars, jour de l'Annonciation. Cette coïncidence du oui de Marie à la promesse de l'ange et du oui de Marie au pied de la croix est perçu comme un signe de la fin des temps. Et la peur envahit les villes et les villages de France, les maisons et les foyers. Peur de mourir, peur de mal mourir, peur d'avoir mal vécu aussi. Peur de souffrir, de voir souffrir les siens, peur de soi-même, peur des autres. Peur des guerres, peur des famines. Et de partout, on accourt vers Notre-Dame du Puy comme pour demander pardon. Le regard de la Vierge, son regard de mère, rassure. Pendant des semaines, nous, les prêtres, nous confessons, nous bénissons par centaines, par milliers, jour et nuit. Nous sommes la proie d'un peuple affamé de la paix de Dieu. Un homme de la région de Beauvais est venu confier sa femme et l'enfant qu'elle porte à Notre-Dame du Puy. Il passe d'abord par Saint-Michel et monte avec beaucoup d'autres vers cette chapelle bâtie en l'honneur de l'archange. Il sait, il voit. On lui a dit que le temple de l'archange, en imprimant le sceau de Dieu dans la terre, provoque en celui qui choisit d'y monter le commencement d'une libération. Libération de tout ce qui est mauvais en lui. Alors, le pèlerin de Beauvais monte, monte avec courage, malgré la peur qui le tenaille. Le 25 mars, jour fatidique où le monde doit s'éteindre, le soleil se lève et brille de tout son éclat. Quelque chose comme une irruption de l'éternité vient rendre la paix à tous ceux qui l'ont perdu. Le pardon de Dieu semble faire effet dans les cœurs. L'espoir commence à renaître. On court remercier en pleurant Notre-Dame du Puy. Et le pèlerin de Beauvais rentre chez lui apaisé. Hélas, sa femme, dans la crainte de ne pouvoir porter son enfant jusqu'au bout, a avorté. Elle a même enterré l'enfant. Et devenue folle, elle prie maintenant l'âme de cet enfant mort de lui accorder son pardon. Elle va jusqu'à ouvrir la terre. Et aux yeux de son mari Agar, elle supplie Notre-Dame du Puy de faire revenir l'enfant à la vie.
Vierge sainte, Vous qui êtes mère, vous qui êtes femme, pardonnez-moi. La fin du monde était si proche. Par peur, j'ai commis ce que je voudrais n'avoir jamais fait. Je croyais que je n'aurais pas la force de le porter. C'est allé si vite. Vierge Marie, vous savez la douleur de mon cœur. Rendez-moi, je vous en supplie, rendez-moi mon enfant. Ou gardez-le près de vous, mais bien vivant, dans vos bras, pour toujours. Rien n'est impossible à Dieu, vous le savez. Je vous en prie, ma mère, remettez-le au monde.
Et, tandis que cette femme prie, une douce chaleur se répand peu à peu sur le corps inerte et froid de ce petit enfant. Et soudain, un cri prouve à la mère que l'enfant est redevenu vivant. Je l'ai baptisé ici au puits, cet enfant. Cet enfant que ses parents ont nommé Lazare. En l'an 1254, le roi Louis IX s'en est allé vers les lieux saints. Depuis que le pape Urbain II, en 1095, a annoncé le 15 août, ici même, au puits, son intention de lancer une expédition de secours en faveur des chrétiens de Terre Sainte, la route des croisés vers Jérusalem est tracée. Adhémar de Monteil, alors évêque du Puy, accompagne la première expédition. Et avant de partir, il adresse une dernière prière au pied de Notre-Dame. Salve Regina, toi, notre vie, notre douceur, notre espérance, nous crions vers toi. Tourne tes regards miséricordieux vers nous. Montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Au retour, le saint roi Louis vient en pèlerinage au puits Sainte-Marie et il offre au maître des lieux une épine de la couronne du Christ. Sauvé à la Révolution de 1789 par un de mes frères prêtres qui la cache à Saint-Étienne, on peut aujourd'hui en voir un fragment au trésor de la cathédrale. Est-ce lui le roi Saint-Louis qui fit cadeau de cette statue de la Vierge Noire? On ne le sait pas. Son origine reste un mystère. Pour les uns, elle est de France, son bois provient des arbres de l'Auvergne, pour d'autres, elle est d'Orient, faite des cèdres du Liban. De partout et d'ailleurs, cette image ne cesse d'attirer par son mystère, inscrit dans cette peau noire. « Je suis noire et je suis belle, fille de Jérusalem, chante le cantique des cantiques. » L'enfant Jésus, adossé sur son ventre, raconte « quelle est la mère de cet enfant qu'on appelle Christ, Jésus, fils de Dieu. » Plus tard, c'est une reine de France, Marguerite de Provence, qui viendra en pèlerinage au puits, confier le royaume de son époux, le bon roi Saint-Louis, à la reine du ciel.
Ma mère, notre royaume est le vôtre. Et parce que c'est le royaume de France, il se confond avec l'intérêt et le destin du monde. Je vous choisis comme protectrice, belle dame du puits. Donnez-moi d'enseigner à mon fils à mettre tout son cœur à aimer Dieu, car sans lui, nul ne peut trouver sa place ici-bas. Ma mère, vous êtes mère et vous êtes reine parce que vous êtes mère, reine du ciel et de la terre, mère de l'auteur de la vie. C'est à vous que revient ma couronne. Nous n'avons aucun pouvoir s'il ne nous est pas donné d'en haut. Prenez-la. Je vous la donne. Portée par vous, elle brillera d'un éclat divin qui rejaillira sur nous en rayons de lumière.
En 1429, il y a grande pitié au royaume de France. Le vendredi saint tombe à nouveau le jour de l'Annonciation. Cette coïncidence s'appelle un jubilé. Sachez que le dernier a eu lieu en 2005. Et préparez-vous pour le prochain. Il aura lieu en 2016. Pour l'heure, nous sommes en 1429. Les Anglais occupent les provinces de France situées au nord de la Loire. Les Bourguignons soutiennent la cause de l'envahisseur. Le dauphin Charles VII est déchu de ses droits de succession par sa propre mère, Isabeau de Bavière. En grand danger pour sa personne et sa mission, c'est sous la protection de la patronne du puits qu'il vient se mettre. Une fois encore, la Vierge du Mont Anis veille aux destinées de la France. La guerre n'en finit pas de s'étendre et avec elle son cortège de peur, de famine, de violence, d'exil et de mort. À l'approche du jubilé, dans les lieux où la foi n'a pas vacillé, on redouble de prières. On espère que le grand vendredi sera annonciateur de paix et de libération pour la patrie. Et quelque part en France, une jeune fille, une vierge issue d'un petit village de Lorraine, du nom de Don Rémy, est en prière. Et le nom de cette jeune fille est Jeanne.
C'est à Notre-Dame du Puy que je voudrais confier ma mission. Mais je suis à Chinon, déjà engagée dans la bataille. Je demande à ma mère, à mes frères, de se rendre là-bas pour demander à notre Mère du Ciel les grâces dont j'ai besoin pour mener le bon combat. Et que soit faite la volonté de Messire Dieu, mon roi, aux cieux et en toutes choses.
Et sur la roche volcanique dressée par la nature comme un piédestal, sur ce socle solide et vénérable où Saint Michel, le gardien de l'église, veille, Isabelle Romée, la maman de Jeanne, se recueille. Sur ce chemin des anges, elle avance, elle monte. Chacun de ses pas épouse les angoisses de son cœur. Le ciel est sans nuages, elle monte jusqu'à la chapelle. Elle parvient jusqu'à la porte au caractère oriental que caressent les rayons du soleil. Et là, c'est en elle-même qu'Isabelle Romée pénètre. Et entre ciel et terre, comme en cette bâtisse qui ne semble pas humaine, elle prie l'archange de Don Rémy de faire en ce lieu sacré le lien entre elle, Jeanne et Dieu. Avec courage, elle redescend vers la cathédrale. Elle traverse la foule apeurée et perdue. Et là, devant la Vierge Noire, elle se recueille. Dans le murmure incessant d'une foule en prière, elle entend un prêtre lire derrière elle à ses pèlerins avides d'espérance un passage de l'Évangile qui peu à peu va apaiser sa peur.
L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, du nom de Nazareth, à une jeune fille, une jeune vierge accordée en mariage à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Et le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et lui dit « Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi ».
Et la mère de Jeanne prie la Vierge de donner à sa fille la force du combat. Et 40 jours plus tard, le siège d'Orléans est levé. La Vierge du Mont Anis a répondu directement à la prière d'Isabelle Romée. Jeanne deviendra la sainte patronne de France. La Vierge du Puy a envoyé à Jeanne un de mes frères prêtres, le frère Pasquerel. Il a tout quitté pour l'accompagner. Il deviendra son confesseur et son conseiller. La chevauchée continue et conduit très vite Charles VII jusqu'à Reims. Une fois encore, le grand pardon provoque par l'intervention d'une mère auprès de la mère de Dieu le renversement du cours de l'histoire. En 1602, le 18 novembre, une petite fille naît dans la famille Galland. Elle reçoit le nom d'Agnès. Très jeune, elle va s'entraîner à la pratique de l'oraison, cette présence de Dieu en nous. Elle y prend goût même. Et Dieu va se découvrir à cette âme qui le cherche avec un tel cœur. La Vierge Marie qu'elle vient prier ici à la cathédrale tous les jours, elle l'appelle Mama. Elle a 7 ans quand elle lui promet d'être à elle et de la servir. Et elle va la servir toute sa vie. À une voleuse qui volait tout et n'importe quoi jusqu'à piller les troncs des églises, elle dit un jour
« Tu amasses dans la peur. Ce que tu fais te fait mal. Pourquoi le fais-tu ? En volant la maison de Dieu, c'est ton propre cœur que tu profanes. Est-ce que tu sais que la première demeure de Dieu, c'est toi ? Rends-lui ce qui fait sa valeur. Ta dignité. »
Et soudain, cette jeune voleuse pleure. Elle craque, réalisant d'un coup l'énormité de sa faute. Agnès lui propose alors de l'accompagner jusqu'au confessionnal, de parler à un prêtre. Ce qu'elle fait. Encouragée par sa bonté, la jeune fille accepte. Et Agnès vient me la confier. La confession sera pour cette jeune voleuse une libération et par la grâce du repentir, une guérison. Hélas, un jour, Agnès va vivre un horrible drame. Une jeune fille d'une très grande famille du Puy est tombée enceinte. Elle a réussi à le cacher, mais parvenue au terme et dans un geste de folie, elle a étouffé l'enfant qu'elle vient de mettre au monde. Ce crime commis, le désespoir s'empare bientôt de cette âme. Réalisant son geste, elle ne pense qu'à se donner la mort. Et c'est à Agnès qu'elle se confie. Elle la supplie d'ensevelir l'enfant dans un endroit secret. Agnès se met alors à prier la Vierge du Puy. Elle ne peut pas révéler cette confidence reçue comme une confession, elle ne peut pas davantage laisser cette jeune fille seule devant son crime. Alors elle prie, elle supplie avec une incroyable ferveur la Vierge du Puy de rendre à cette malheureuse la paix par le pardon. Et Agnès, comme une mission reçue, va pouvoir aider cette jeune femme. Elle enterrera l'enfant. Et la jeune fille choisira alors d'offrir sa vie à Dieu dans un monastère où peu à peu, elle retrouvera la paix. Quant à Agnès, proclamée aujourd'hui bienheureuse, elle sera rattachée au monastère de Langeac. Elle deviendra religieuse chez les dominicaines. Et tous les soirs, depuis sa fenêtre, elle priera en direction du puits, la Mama. Traversons le temps. Au XVIIe siècle, le Puy, ville sacrée, continue d'attirer et de donner à la France et au monde des missionnaires, des congrégations, des saints. Chaque fois que des troubles politiques et religieux désolent le royaume ou que la peste fait rage, on prie. On porte solennellement en procession la Vierge Noire. Et devant la foi vivante de ses enfants, la Vierge opère fidèlement ses miracles, partout dans les grandes villes de France. Saint Jean-François Régis exerce lui aussi au Puy un grand ministère de charité. Patron des dentelières, il travaille de toute son âme à rendre leur dignité aux femmes les plus malmenées. Comme pour confirmer que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Voici Madeleine, par exemple, une prostituée qui monte par la rue des Tables vers la cathédrale. Le visage masqué d'un fichu noir, elle marche et elle pleure. Elle marche très vite, jetant par instants un regard furtif à droite et à gauche, et à mesure qu'elle s'approche de la cathédrale, il lui semble ressentir une sorte d'apaisement, de sécurité. Elle est maintenant en bas des marches que tant d'hommes et de femmes ont gravies. Elle souffle, elle s'arrête, elle lève les yeux et, malgré ses larmes, elle sourit. Contempler la cathédrale, c'est déjà pour elle contempler Marie. Et de ce cœur brûlant d'espérance semble s'élever le chant des poètes de la détresse. Notre-Dame des mendiants, des brigands, des vipères, Notre-Dame des manchots, des marmots en prière, il est presque minuit, je marche dans la ville. Suis-je digne d'un regard, suis-je digne d'une tendresse, suis-je tout simplement digne? Je ne suis qu'un pauvre blessé venu te demander pardon. Regarde ton enfant, guéris-le de ses blessures. Oui, il est minuit et la ville dort. Madeleine a préféré la nuit pour venir à l'église. C'est le bon père Jean-François Régis qui, un jour, m'a parlé d'elle.
Il m'a sorti du ruisseau, moi et d'autres de mes compagnes. Ça n'a pas été facile pour lui, mais il n'a pas eu peur. Il est venu mettre la lumière dans nos cœurs encrassés. Il m'a dit que si je venais vers vous, Vierge Marie, je pourrais être admise dans la maison de Dieu. Et à une belle place en plus. C'est pour ça que je suis là ce soir. Devant cette façade qui me parle de vous. De votre douceur, de votre beauté. De la puissance de Dieu. Je suis là. Et je me tiens debout, malgré le poids de mon fardeau. Je me tiens debout, parce que tout m'y invite.
Madeleine a franchi cette porte, restée ouverte ce soir-là, mystérieusement. Le souffle coupé par l'effort, elle s'arrête un instant. Elle se sait indigne, Madeleine. Et pourtant, une certitude l'habite. Elle est attendue. Poursuivant alors son chemin par le petit escalier étroit, l'escalier du ventre, la voilà plongée dans les entrailles de la terre comme dans les entrailles de Marie. Un bien-être l'envahit. Un sentiment étrange, très vieux et nouveau à la fois, l'enveloppe de cette douceur maternelle. Un sentiment nouveau qu'elle ne sait pas définir. Peut-être est-ce la vie. Son cœur se met à battre de plus en plus vite. Et devant le tabernacle et devant Notre-Dame, seule à genoux, la tête plongée dans les mains, Madeleine pleure. Elle pleure. Elle pleure et elle prie. Elle pleure et elle remercie.
Notre-Dame, mon corps souillé peut devenir lumière près de vous, le bon père me l'a dit. Mon âme bafouée peut être lavée près de vous, le bon père me l'a dit. J'aime être près de vous, je me sens bien. Comme l'enfant vagissant dans le sein de sa mère, je me sens renaître. Je suis venue vers vous ce soir parce que le bon père Jean-François Régis m'a parlé de vous. Par lui, j'ai retrouvé l'espoir. Jamais un homme ne m'avait parlé comme lui. J'ai vu dans ses yeux quelque chose de votre mystère, quelque chose de vous. J'ai découvert l'amour.
Et dans le silence de la nuit, dans le secret de la vérité, Madeleine est repartie, toute neuve. Elle n'a plus besoin de se cacher, elle n'est plus seule. Il n'y a personne pour l'escorter, pourtant elle n'est plus seule et elle le sent. Le monde invisible ce soir-là est en fête. Depuis la chapelle Saint-Michel d'Aiguille jusqu'au rocher Corneille, une multitude d'anges chante et se réjouit pour Madeleine. Et Marie se penche vers son enfant nouveau-né et lui sourit. En 1791, la révolution s'abat sur le Puy, en février. Le grand séminaire ferme, on a arraché les crucifix, on les a jetés à terre. Les futurs prêtres sont chassés de leurs repères comme autant de fanatiques. La révolution fait peser sur la ville un climat de guerre civile. Nous, les prêtres, si nous ne sommes pas jureurs de la constitution civile du clergé, nous devons vivre cachés. L'évêque s'est réfugié en Savoie. La persécution est en marche. On a fermé la cathédrale. On pille ses trésors systématiquement, sans état d'âme. Seule, la statue de la Vierge est sauvée. Sous prétexte de protection d'une œuvre d'art antique, les autorités locales ont réussi à la mettre à l'abri. Et la population prie Dieu d'épargner leur Vierge noire, dans l'espoir qu'elle soit oubliée en attendant des jours meilleurs. Hélas, un voile semble empêcher les prières de monter vers Dieu. Haine, pillage, massacre, sacrilège, la France brûle celui qu'elle a adoré. La folie meurtrière est partout. Un vent de démence souffle vers le Puy. Guyardin, le représentant du peuple et du pouvoir révolutionnaire, vient au Puy pour s'emparer de la Vierge noire. Et l'homme fait peur. Il peut envoyer à la guillotine qui bon lui semble. On lui livre Notre-Dame du Puy, la mort dans l'âme. Le 8 juin 1794, le dimanche de la Pentecôte, la Vierge, privée de sa couronne, est balancée dans une charrette qui sert au ramassage des ordures. On mène la statue telle une condamnée à l'échafaud à travers les rues de la ville. Depuis la cathédrale jusqu'à la place du Martouret, la grande cérémonie expiatoire doit se tenir là. Le bûcher est prêt. Reliques, statues, tableaux, tous les objets ayant un rapport avec le culte catholique doivent disparaître. De cette population rassemblée, atterrée, silencieuse, quelques gros rires gras s'échappent néanmoins, comme l'écho d'une peur omniprésente. Un canonnier tire son sabre et d'un coup il tranche le nez de la Vierge noire. Cette profanation accomplie, la Vierge qui apparaît maintenant faite des cèdres du Liban est jetée au feu. Et l'on crie « Attention aux cendres ! Les dévots fanatiques seraient capables d'en faire des reliques !» Et Guyardin donne ordre de les ramasser, ces cendres, et d'aller les disperser dans un champ. 8 siècles de prières et de cultes rendus à Notre-Dame du Puy viennent de disparaître. Mais la Providence veillait. À la fin du XVIIe siècle, on avait réalisé une copie de la statue et en ce 8 juin 1856, jour anniversaire de la profanation, une cérémonie expiatoire se déroule entre la place du Martouret et la cathédrale. On refait en sens inverse le chemin parcouru par la Vierge noire avant sa destruction. Une œuvre d'art irremplaçable a bien été détruite, mais la foi en Notre-Dame, elle, reste intacte. Le visage de Notre-Dame d'aujourd'hui nous parle de cette victoire de l'amour sur la haine. Moins de 10 ans après cette profanation, la cathédrale est rendue au culte. Le pape Pie VII restitue à la ville sainte ses anciens privilèges. Les pèlerins réapparaissent, d'abord en petit nombre comme les rescapés d'une horrible tragédie, puis, peu à peu, ils affluent de nouveau. Et une femme va alors décider de faire le pèlerinage du puits pour mettre son fils sous la protection de Notre-Dame. Les temps sont durs pour qui veut garder vivante la foi en Dieu. La pratique religieuse est négligée, la messe du dimanche laissée à quelques vieilles femmes. On se moque de la religion, on tourne en ridicule les vérités de la foi. Le blasphème est devenu quotidien et il ne choque plus personne. Pour les nouvelles générations, l'histoire de la création et du mystère de l'amour de Dieu pour les hommes ne sont que légendes chargées d'anesthésier les peurs et les volontés du peuple. Et c'est en ces jours-là qu'à Notre-Dame du Puy, cette femme vient confier son fils en demandant à la Vierge d'intercéder pour lui. Lui qui se sent appelé par Dieu pour devenir son ministre dans le sacerdoce. Cette femme se nomme Madame Vianney, son fils Jean-Marie.
Vierge Marie, vous avez été enceinte du Christ prêtre. Vous savez les secrets de mon cœur maternel. Je vous en supplie, priez pour mon fils Jean-Marie, qu'il soit quelque chose de bien ou rien. Pécheresse, j'ai voulu aimer mon fils, mais je n'ai pas toujours réussi. Depuis la conception de mon petit Jean-Marie, des peurs et des angoisses ont pu m'habiter, en même temps que des joies et des espérances. S'il porte en lui les blessures de mon cœur, donnez-lui la grâce de les confondre avec celles du Christ, d'en faire une force de vie pour accueillir celle des autres pécheurs. Là où je n'ai pas su donner la vie, accouchez-le de nouveau. Là où je n'ai pas été juste, offrez-lui votre regard. Là où j'ai manqué d'amour, habillez-le de votre sourire.
Et dans le cœur de Madame Vianney, les mots continuent de jaillir. Et ce jour-là, une fois encore, s'opère dans le silence et dans la prière une nouvelle naissance. Jean-Marie Vianney deviendra le patron de tous les prêtres du monde, le Saint Curé d'Ars. En ce 25 mars 1858, jour de l'Annonciation et de la fête patronale du Puy, une enfant de 14 ans, Bernadette Soubirous, voit pour la 16e fois une dame, très belle, qui lui apparaît dans une grotte que les habitants de cette petite bourgade des Pyrénées lourdes appellent Massabielle. Et en ce 25 mars-là, poussée par le curé de Lourdes, l'abbé Peyramale, Bernadette a demandé à cette dame qui elle était. Trois fois, la dame lui a répondu par un simple sourire. Mais à la quatrième fois, elle a ouvert les bras vers la terre. Elle a joint les mains à la hauteur de sa poitrine. Et levant les yeux vers le ciel, elle lui a répondu dans la langue d'oc de Bernadette: Que soy era Immaculada Concepción. Je suis l'Immaculée Conception. La Vierge vient de confirmer à cet enfant de 14 ans le dogme proclamé 4 années plus tôt par le pape Pie IX sur son identité, comme une promesse offerte en partage. Est venue d'Orient, d'un village de Galilée, du nom de Nazareth, Marie, mère de Dieu, vient de révéler cette présence et son nom à une jeune fille dans une petite ville de France, comme un champ d'espérance. Or, hasard ou coïncidence, 2 jours plus tard, le 27 mars, ici, au Puy-en-Velay, on bénit sur le rocher Corneille la première pierre d'un monument en l'honneur de la Vierge Marie. Depuis plus de 15 siècles, les Français, confiant en celle qu'ils ont nommée leur mère, n'ont cessé de lui élever les plus beaux sanctuaires. Cathédrales, basiliques, églises, chapelles, oratoires, tous nous racontent son incessante protection par une apparition, un miracle, une guérison ou une grâce prodigieuse. L'intervention constante, maternelle, répétée, lancinante parfois de la Vierge, fait partie de l'histoire de notre pays. Marie n'a jamais cessé de nous répéter « Je suis là, je veille, n'ayez pas peur ». Et partout, dans les villes et les villages, et jusque dans les plus petits hameaux, partout, on va lui élever des sanctuaires et des statues. Les processions se multiplient et les poètes laissent chanter leurs muses. Être avec vous, Marie, en ce lieu où vous êtes. Ne rien dire, regardez votre visage, laissez le cœur chanter dans son propre langage, parce que vous êtes belle, parce que vous êtes immaculée, la femme, dans la grâce, enfin restituée. Pour honorer l'Immaculée Conception, la maternité divine et la royauté de Marie, Monseigneur de Morlan imagine d'ériger au Puy une statue qui culmine sur un rocher à 764 mètres d'altitude et qui domine et qui protège la ville. Comme encouragé par le ciel, les dons vont affluer de partout. Et Napoléon III, sollicité, offrira pour fondre la statue les 150 tonnes de bronze des canons russes pris à Sébastopol. Les armes de la guerre deviennent ainsi les instruments de la paix. Et depuis 150 ans, la Vierge veille, tandis que son enfant trace sur la ville le signe de bénédiction comme pour protéger le puits, la France et le monde. Le 12 septembre 1860, jour de son inauguration, plus de 120 000 pèlerins venus de France, d'Europe et du monde entier répondent à son appel, le 12 septembre.
Mais par où faut-il passer pour arriver à la statue ? J'aimerais bien y monter, moi aussi.
Alors sache que l'ascension est rude. Si tu t'essouffles, adosse-toi quelques instants au rocher massif. Pour reprendre courage, regarde vers la statue. Elle est là. Elle t'attend. Si la route est de plus en plus étroite, l'air est de plus en plus léger. La lumière, de plus en plus pure. La vue qui s'offre à toi est une des plus belles du monde. Plus forte que les canons de la guerre posés à terre comme pour la protéger d'éventuels assaillants, Notre-Dame de France veille sur toi dans un enfantement qui ne finit pas. Une certitude habite son visage, quelque chose d'une paix surhumaine émane d'elle. Regarde. Regarde ce serpent de 17 mètres, étalé à ses pieds, il semble pas lui faire peur. D'un pied, elle lui maintient, elle lui écrase la tête. De l'autre, elle t'engage à danser dans la prière. Poursuis ta route vers l'intérieur de la statue, et là, laisse jaillir les mots.
Vierge Marie, Notre-Dame de France, j'ai oublié mon nom. Je ne vous ai jamais parlé. On ne m'a pas appris. Mais aujourd'hui, je viens vous prier comme toutes ces femmes avant moi. Je viens vers vous. Je suis entrée dans le ventre de la statue. Tout est sombre. Je suis dans vos entrailles. Le respect m'envahit. L'émotion monte en moi de plus en plus forte. Comme c'est drôle. Ici, pour naître, on ne descend pas vers la terre, on monte vers le ciel. Ma mère, me voilà devant vous. Je vous regarde. Je n'ai plus envie de partir. Je suis bien. Je suis apaisée. La mémoire que j'avais perdue me revient soudain et laisse défiler en moi le film de ma vie. Immense champ de bataille où les cadavres se sont empilés, où la vie s'est éteinte. Pourtant, tel un chant d'oiseau dans le froid de l'hiver, de faibles lumières jaillissent. travers des amitiés, des rencontres. Et la plus belle est celle ce soir du prêtre Martial. Il m'a dévoilé votre visage.
Les larmes coulent de tes yeux, jeune femme. Tu sens ton cœur battre, mais tu n'as plus peur. Quelque chose de nouveau, de droit, de lumineux vit en toi. L'impression que par la prière, tout est à nouveau possible, comme au premier jour. Les souffrances que tu as vécues, toutes ces années, sont écrasées d'un coup, comme le serpent sous les pieds de la dame. Tu es de France, toi aussi. Cela ne voulait peut-être rien dire pour toi, mais maintenant, tu sais. Regarde la Vierge te sourire. Elle semble te dire « Viens, approche, n'aie pas peur, je suis là et je veille. » Laisse-toi emporter comme une enfant entre ses bras. Une brise légère danse sur tes joues comme le rayon du soleil. Entends-tu au plus profond de ton cœur, dans un doux murmure, cette voix qui te répète « N'aie pas peur, je suis là et je veille. » Ici même, sur le rocher Corneille, au pied de Notre-Dame, une jeune femme vient d'entrer dans l'histoire de la vie. Elle repart avec un nom nouveau. Désormais, elle s'appelle Espérance. Dans la lumière grandissante d'un jour tout neuf, elle poursuit sa route. La ville sacrée s'éloigne. Elle se retourne une dernière fois. Elle voit Saint-Michel, Saint-Joseph, la cathédrale. Elle voit Notre-Dame de France. Elle voit la ville. Cette ville semble lui parler d'une vie qui ne finit pas. Et devant ce paysage, où les hommes ont toujours perçu la présence divine, elle perçoit à son tour, au petit matin, cette espérance à l'opposé du néant. Une joie s'empare de tout son être, comme une envie de danser, de chanter. Une dernière fois encore, elle aperçoit, se dressant dans une tranquille victoire, un enfant dans les bras, fruit de ses entrailles, une femme que désormais elle appelle par son nom. Marie, Notre-Dame de France.